Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. En ce lundi de Pâques, que l'on appelle également lundi de l'ange, le Saint-Père a livré la prière du Regina Coeli dans la bibliothèque apostolique. Il en a profité pour revenir précisément sur cette figure de l'ange, messager de Dieu, qui annonce la nouvelle de la résurrection aux saintes femmes. Il est une manifestation concrète de l'intervention de Dieu lui-même et de sa victoire sur la mort, a affirmé le Saint-Père. Le compte-rendu d'Adelaide Patrignani.
Je sais que vous recherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, affirme l'ange de Dieu aux saintes femmes. L'expression « il est ressuscité » va au-delà des capacités humaines, note le pape. Elle ne pouvait sortir que de la bouche d'un ange, tout comme le fut l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu à la Vierge Marie. Après un fort tremblement de terre, un ange de Dieu descend du ciel, roule la pierre du tombeau et s'assoit dessus. Cette pierre, qui aurait dû être le sceau de la victoire du mal, devient le marchepied de l'ange. Ainsi, tous les plans des ennemis de Jésus auront été vains.
L'immagine dell'angelo seduto sulla pietra del sepolcro è la manifestazione concreta.
L'image de l'ange assis sur la pierre du tombeau est donc la manifestation concrète visuelle de la victoire de Dieu sur le mal, de la victoire du Christ sur le prince de ce monde, de la lumière sur les ténèbres. Cet ange et l'ouverture de la tombe attestent de l'intervention de Dieu lui-même, qui suscite deux attitudes. D'abord celle des gardes, stupéfaits, désarmés devant la puissance de Dieu. Et puis celle des saintes femmes, invitées par l'ange à ne pas avoir peur. De là, un enseignement doit être tiré. Ne nous fatiguons pas de chercher le Christ ressuscité qui donne la vie en abondance à ceux qui le rencontrent. Trouver le Christ signifie découvrir la paix du cœur et surtout la joie.
Adelaide Patrignani. Et pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va où vous retrouverez également le message Urbi et Orbi du Pape délivré hier. Un message de paix dans lequel il exhorte notamment à vaincre la mentalité de la guerre. Dans le reste de l'actualité religieuse, nous apprenons le décès de l'archevêque de Kampala, la capitale d'Ouganda. Monseigneur Cyprien Kizito Langwa a été retrouvé mort dans sa chambre ce samedi. La veille, il avait prononcé l'homélie lors du chemin de croix œcuménique à la cathédrale de Namirembe. Puis les mots du pape François pour le cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala au Cameroun, décédé également ce samedi. Le Saint-Père salue la mémoire du cardinal camerounais, très investi dans la réconciliation entre les francophones et anglophones. Prenons maintenant la direction d'Israël, où le procès de Benjamin Netanyahou a repris ce lundi matin. Le Premier ministre est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Il était présent à l'audience, alors qu'au même moment, les consultations post-électorales pour former un gouvernement ont débuté à Jérusalem. La correspondance de Lucas de Villepin.
Pour la reprise de son procès, Benjamin Netanyahou sera resté moins d'une heure au tribunal de Jérusalem. Le temps toutefois d'entendre le réquisitoire de la procureure Liad Ben-Ari. Elle accuse le Premier ministre israélien, je cite, d'avoir usé de son pouvoir de façon illégitime, entre autres pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants. Benjamin Netanyahou est inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires depuis novembre 2019. L'audition des premiers témoins a débuté ce mardi. Le procès pourrait lui durer plusieurs années. Un calendrier judiciaire qui chevauche l'actualité politique. À quelques kilomètres du tribunal de Jérusalem, le président israélien Reuven Rivlin commençait au même moment les consultations avec les chefs de parti, des discussions pour désigner qui sera chargé de former un gouvernement après les élections du 23 mars. Et alors qu'Israël fait face à un blocage politique sans précédent, Reuven Rivlin a annoncé que sa décision prendrait aussi en compte des considérations éthiques. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
L'Iran face à une montée en flèche des cas de coronavirus deux semaines après le nouvel an perse. Téhéran, la capitale, est maintenant classée rouge, soit le plus haut niveau dans le pays. Seules les activités dites essentielles sont autorisées. Hier, plus de 14 000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés, un record depuis décembre dernier. En Turquie, 10 anciens militaires ont été placés en garde à vue ce matin et 4 autres sommés de se présenter à la police sous 3 jours. Ils font partie des 103 signataires, tous amiraux à la retraite, d'une lettre ouverte dénonçant la menace que ferait peser, selon eux, un projet du gouvernement sur un traité historique régissant l'utilisation des principales voies navigables de la Turquie. À Istanbul, les explications d'Anne Andlauer.
Le parquet d'Ankara chargé de mener l'enquête contre les 103 signataires de cette lettre ouverte avait indiqué avoir identifié les meneurs de l'initiative. Ils risquent désormais un procès sur la base d'un article du code pénal turc qui punit, je cite, « l'entente pour commettre un crime contre la sécurité de l'État et l'ordre constitutionnel », soit entre 3 et 12 années de prison. Dans leur lettre ouverte publiée dans la nuit de samedi à dimanche, ces anciens militaires s'inquiètent des conséquences d'un projet du président Erdogan baptisé « Canal Istanbul ». Il s'agirait de creuser un gigantesque canal dans l'ouest d'Istanbul, entre la mer Noire et la mer de Marmara, pour alléger le trafic sur le détroit du Bosphore. Les 103 officiers en retraite redoutent que ce projet ne remette en cause la convention de Montreux de 1936 qui consacre la souveraineté de la Turquie sur ces détroits. Dès la publication du texte, les officiels turcs ont estimé que la méthode rappelait l'époque des coups d'État dans un pays où les militaires se sont longtemps arrogé le droit de renverser les gouvernements. À Istanbul, Anne Andlauer pour Radio Vatican.
Les combats continuent à Palma, dans le nord du Mozambique. L'armée cherche à reprendre le contrôle de la ville de 75 000 habitants, tombée il y a une dizaine de jours dans les mains des terroristes de l'Organisation de l'État islamique. Un nombre important de combattants islamistes ont été tués, indiquent les forces mozambicaines. Après la France et la Grèce, Malte annonce à son tour la réouverture de son ambassade à Tripoli, en Libye, et la reprise des liaisons aériennes entre les deux pays. Une manière diplomatique d'encourager le gouvernement de transition tout juste mis en place en Libye après une décennie d'instabilité. La tension ne retombe pas dans le Donbass, cette région divisée entre l'Ukraine et la Russie. Le comité d'enquête russe annonce ouvrir une enquête sur la mort d'un enfant ce week-end dans des bombardements attribués par les séparatistes aux forces ukrainiennes. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Les enquêteurs russes ont annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort d'un enfant de 5 ans vendredi dernier à une quinzaine de kilomètres du front. En cause, l'explosion d'une munition dans la cour d'une maison lors d'une attaque ukrainienne avec des armements lourds et des drones. Le parquet russe dit être en mesure d'enquêter en raison de l'usage de moyens interdits dans un conflit armé par un accord international signé par la Russie, même si la mission d'observation de l'OSCE pour la sécurité et la coopération en Europe n'a pas mentionné cet incident dans ses rapports. Une triste illustration des violations de plus en plus fréquentes du cessez-le-feu intervenu entre Kiev et les séparatistes du Donbass dans le sud-est de l'Ukraine. La région connaît en effet des tensions croissantes depuis le début de l'année, au point que les autorités ukrainiennes, redoutant une prochaine explosion de violence, ont obtenu le soutien de Joe Biden, qui a relevé d'un cran le niveau d'alerte des troupes américaines basées en Europe. Comme Kiev, Washington s'inquiète du renforcement des troupes russes tout au long de la frontière ukrainienne ainsi qu'en Crimée depuis plusieurs semaines. Pour sa part, Moscou se prévaut du droit de déplacer ses troupes comme il l'entend sur son territoire, mais se dit prêt à réagir en cas d'ingérence étrangères dans le conflit. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Toujours en Russie, Vladimir Poutine vient de signer la loi l'autorisant à réaliser 2 mandats supplémentaires. Cela ouvre donc la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. La loi avait été adoptée en mars après un oui lors du référendum constitutionnel l'été dernier. En Birmanie, une salve d'applaudissements pour protester contre la junte militaire. Les citoyens sont sortis sur le pas de leur porte ce lundi pour applaudir pendant 5 minutes la dizaine de factions armées qui hier a annoncé se désolidariser de l'armée au pouvoir et rejoindre la désobéissance civile. Sans surprise, au Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a été élu président du pays par les députés de l'Assemblée nationale. Âgé de 66 ans, le Premier ministre est salué pour sa gestion de la pandémie et son bilan économique. Il était le seul candidat pour la fonction honorifique de président après la démission de Nguyen Phu Trong, qui lui a pris la tête du Parti communiste. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin à 8h30. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre site et nos pages Facebook et Twitter.